chant d'amour et de joie immense, je te bénirai en tout temps. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donné, je te dis merci, toujours et même dans l'éternité. C'est toi, mon Dieu, qui créa la terre et aussi le ciel, tu les as rendus eux-mêmes. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donné, je te dis.
Après le culte, certains, faut le faire, hein. Nous allons lire Hébreux chapitre 13, verset 2. Enfin, on va déjà lire verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car c'est en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je vais vous asseoir. Je ne vais pas vous parler de l'hospitalité ce matin. Je vais vous parler des anges. L'archange Uriel n'est pas nommé dans nos Bibles actuelles. Il est nommé dans la Bible des Éthiopiens, parce que les Éthiopiens, ils ont toujours gardé le livre d'Enoch. Le nom de Uriel signifie « feu de Dieu ». Quand on voit des représentations de Uriel, en général, il a une flamme dans la main, il tient une flamme dans la main. Alors, ça peut être une... ça dépend. En général, c'est des flammes un peu comme vous avez sur nos vitraux, là. Mais ce n'est pas toujours les mêmes. J'ai trouvé une représentation où c'est un éclair. Vous savez, dans le genre, un petit peu comme on voit ces reproductions de ces choses, au sujet de Zeus qui tient un éclair. J'ai même trouvé une reproduction d'Uriel qui représente Uriel, l'ange Uriel, sur un cheval, plutôt sur une licorne, avec un de ses éclairs comme ça. Enfin, ça signifie, le nom signifie feu de Dieu. Le livre d'Enoch nous parle beaucoup de lui. J'espère que vous avez lu ou que vous êtes en train de lire ce livre d'Enoch. Il y a un apocalypse qui s'appelle l'apocalypse d'Esdras, où il est aussi question de l'archange Uriel. Enoch nous apprend qu'Uriel est préposé à toutes les étoiles qui brillent. Alors, ça c'est dans la réalité, parce que les étoiles ne sont pas que des trucs qui sont suspendus là-haut, mais ce sont des entités vivantes, on l'apprend aussi. Les étoiles qui brillent dans le ciel et qui éclairent la terre, on trouve ça dans Enoch 74. Ensuite, il nous est dit qu'il est l'archange qui apporte aux enfants de Dieu la lumière de la connaissance. Il est celui qui explique, qui révèle, qui interprète les prophéties. Et il est aussi l'archange du châtiment. Alors au début de l'histoire du christianisme, on accordait une grande importance à l'archange Uriel parce que, au début du christianisme, eh bien, le livre d'Enoch était un livre courant. Il n'y avait pas les premiers chrétiens à Jérusalem, quand ils se réunissaient pour écouter les apôtres, ne prenaient pas leur Bible pour lire la lettre aux Corinthiens. ou l'Apocalypse de Jean. Il n'y avait pas tout ça, ils n'avaient pas de Bible, mais ils possédaient des communautés de vie, ils possédaient des écrits, et puis ils pouvaient les lire. Il y avait par dedans, il y avait le livre d'Enoch, évidemment, donc ils le lisaient couramment, ils savaient ce que... Donc ils aimaient beaucoup l'archange Uriel, ils tenaient compte de lui, il avait une grande importance, mais très vite, l'Église catholique a combattu cette tendance d'aimer cet archange, de le prendre au sérieux. Et finalement, au Concile de Rome en 745, ils ont carrément interdit, n'est-ce pas? Il était jeté dans les oubliettes, voilà. C'est quand même bizarre, hein, il y en a tellement d'autres qu'ils ont rajouté, ils ont inventé, mais là, Uriel, non. Là, pour moi, c'est plutôt un bon signe qu'il ait rejeté. Par contre, dans l'Église orthodoxe, les croyants croient encore aujourd'hui qu'Uriel est parmi les sept anges, archanges majeurs. Ils croient à l'existence de Raphaël, qui signifie « Dieu soigne », de Gabriel, qui signifie « puissance de Dieu », de Michaël, qui signifie « qui est comme Dieu », comme une interrogation, hein, « qui est comme Dieu ?» de Saltiel, « prière de Dieu », de Jéhudiel, « gloire de Dieu », et de Barakiel, « bénédiction de Dieu », évidemment d'Uriel, « feu de Dieu ». En vérité, Uriel, il suscite des éclairs d'inspiration. Des révélations profondes, des éclairs. C'est lui qui éclaire ceux qui cherchent à observer les pierres sur lesquelles la lumière n'a pas encore brillé dans les nations, selon le songe de Junior Jackson. Vous connaissez tous cette histoire. Son nom, Uriel, il vient d'un mot, Uria, qui signifie le prophète. Uriel est l'archange qui éclaire, qui révèle, qui interprète, qui met de l'ordre, qui permet de retourner aux choses anciennes qui ont été perdues. Un peu comme les lumières des étoiles, quand elles nous parviennent, c'est des lumières anciennes qui nous parviennent. D'accord? Pour ceux qui ont un esprit un peu spirituel pour faire la glissade, pour comprendre ce que cela veut dire. Jusqu'à la résurrection de Jésus, les anges et les archanges, c'était eux les intermédiaires entre les enfants de Dieu et Dieu, leur sauveur, leur Seigneur. Et depuis la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit vit en nous. Jésus vit en nous, nous éclaire, nous conduit, nous inspire. Et la Bible nous dit que Jésus est le seul intermédiaire, seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Mais ça ne veut pas dire que les anges et les archanges se tournent les pouces dans un coin du ciel, pas du tout. Ils sont toujours encore très actifs. Regardez le Nouveau Testament. Plus de 150 fois, il est fait mention des anges dans le Nouveau Testament. Savez-vous ça? Plus de 150 fois. Ils sont très actifs et ils le sont encore de nos jours. Mais les chrétiens ne croient plus en eux. Ils disent qu'ils croient, mais ils ne croient pas vraiment. Ils disent qu'ils croient, puisque la Bible en parle, donc ils n'y croient, mais ça ne change rien à leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il en est fait selon leur manque de foi. Puisqu'ils n'y croient pas, il ne se passe rien. Ou alors, ce sont des choses tellement discrètes qu'elles leur passent complètement par-dessus la tête. Les anges se manifestent à eux, oui, mais discrètement, on pourrait dire même secrètement, avec beaucoup de pudeur, à tel point que déjà même dans l'Église primitive, l'apôtre dit que des fois on reçoit des anges chez nous sans le savoir. Donc, ne vous imaginez pas que si un ange vient vous voir, vous allez voir un être transparent, plus grand que la moyenne, et puis avec des grandes ailes, et puis qui ne touche pas le sol. Ils peuvent se présenter comme ça, ils peuvent se présenter comme ils veulent. Mais la plupart du temps, vous rencontrez un ange sans savoir que c'est un ange. Et eux, les chrétiens, je parle, ils mélangent tout. Ils ne savent plus très très bien ce que c'est que le monde des esprits, ni comment cela est géré. Avec Michou, on rendait visite à des chrétiens il n'y a pas très longtemps encore, et c'est toujours les mêmes ritournelles que j'entends depuis les années 60. Quand quelque chose leur arrive, ils ne savent pas discerner si cela vient de Dieu, si cela vient du diable, si cela vient des anges, ou simplement si cela est la conséquence de leurs actes. Ils ne savent pas. Alors ils chassent au nom de Jésus des choses que Jésus leur envoie. Ils disent que c'est diabolique. Ah, le diable. L'autre jour même, une sœur m'a dit au téléphone, mon fils, sa voiture s'est fait voler, le diable est fort. J'ai rien dit. Alors il dit, oui, mais il est vaincu au nom de Jésus. Je dis, amen. Ah, le diable est fort. Oui. Voilà. Bon. Femme de pasteur. Ils sont dans la confusion. Et c'est pourquoi, quand on leur parle de l'influence des anges, aujourd'hui, ils pensent plutôt à l'influence des mauvais esprits, parce que l'homme est toujours attiré vers le bas et il pense, aussitôt qu'on lui dit prophète, il pense faux prophète, on lui dit ange, il pense ange de lumière, vous voyez, ange de Satan déguisé en ange de lumière. C'est le négatif qui prend le dessus parce qu'ils sont dans la confusion, ils ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur très souvent. Hein. Et la Bible nous dit que l'amour n'est pas dans la peur. Il y a pas de, l'amour n'est pas dans la crainte, vous connaissez cela, mais l'amour bannit la crainte. Bon. Ils ne voient pas de l'amour, les anges, alors ben, ils se font très discrets. Ils continuent à venir à l'aide des enfants de Dieu, mais sans se faire voir, et sans se faire entendre, ou sans se faire connaître. Et il y a une certaine tristesse dans cette population d'anges à cause de cela. Je vous assure, il y a une tristesse. C'est vraiment dommage. Un enfant de Dieu est appelé à entrer dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'a écrit un SMS en me disant qu'il est allé dans une réunion et il n'y avait pas la présence de Dieu. C'était hier. Comment ? Moi, je veux absolument aller dans cet endroit, un endroit où Dieu n'est pas présent, mais c'est miraculeux. Dieu est omniprésent. Comment peut-il ? Je crois qu'il peut tout, mais ça, il ne peut pas ne pas être présent quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est incroyable. Un enfant de Dieu est appelé à entrer, c'est-à-dire à entrer consciemment dans la présence de Dieu. Dieu est toujours présent, mais c'est nous qui devons consciemment entrer dans sa présence, n'est-ce pas ? Eh bien, même quand ils arrivent à entrer dans la présence de Dieu, ils ne voient pas d'anges, ils ne les entendent pas. Et pourtant, le trône de Dieu est environné d'anges. Ils ne les voient jamais, ils n'entendent pas. Ah, ils sentent quelque chose qu'ils appellent la présence de Dieu. Alors ils disent qu'ils croient que les anges existent, mais en fait ils vivent comme s'ils n'existaient pas. Vous voyez, ce matin je me trouve face à vous, ici, à la chapelle du sanctuaire, et même pour tous ceux qui nous écoutent là sur Internet, je suis certain qu'il y a moins de 100 ans, aucun de nous n'étions pas encore rentrés dans la condition mortelle. Nous n'étions pas, il y a encore 100 ans, nous étions, mais nous n'étions pas dans la condition mortelle. Nous étions tous dans notre foyer céleste, et là, nous étions là, parmi des personnes qui nous aimaient, et qui se préoccupaient de notre bien-être éternel. Et c'était des esprits au service de Dieu, qui nous servaient, qui nous aidaient, qui nous chérissaient. Et c'est cela que nous appelons aujourd'hui des anges. Et puis, la vie sur terre est devenue essentielle à notre progrès, donc nous sommes venus, nous nous sommes dit au revoir, là-haut dans les lieux célestes, nous nous sommes dit au revoir, nous avons dit au revoir aux anges qui nous servaient, nous avons dit au revoir aux anges qui nous accompagnaient, et puis nous avons obtenu, chacun de nous, un corps céleste. Alors nous sommes devenus des mortels, et puis nous avons été donc retranchés de la présence de notre Père céleste. Pour ma part, en tout cas pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai été bien accueilli ici-bas parce que mes parents m'attendaient. Ils étaient tout contents de me voir arriver. Il y avait beaucoup de joie et j'ai vécu une très belle enfance, c'était magnifique. Et nous tous, durant nos premières années, mes frères et sœurs, nous avons vécu quelque chose de très spécial. Quelque chose que tous les humains ne vivent pas, c'est-à-dire des humains adultes. Satan n'avait pas le droit de nous tenter, ni de nous accuser, devant le trône de Dieu parce que nous étions des enfants. Jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est comme ça. Satan n'a pas le droit de nous tenter et ni de nous accuser. Alors quand un enfant fait quelque chose de mal, ça vient simplement de sa propre bêtise, son propre petit caractère. C'est pas Satan qui est derrière, c'est pas un démon qui est derrière. Nous étions des enfants, nous étions des mortels non responsables. Nos enfants ne sont pas des êtres responsables devant Dieu. Innocent devant Dieu. Même Titi, quand il crie à table, qui ne veut pas manger comme il faut, c'est un petit être innocent devant Dieu, coupable de rien du tout. Hein, mon Titi ? T'as vu, je parle de toi, hein ? Oh là là ! Et puis, on est entré dans l'adolescence. Alors, l'adolescence, c'est une période formidable, hein, les ados ? C'est une période formidable. C'est la période qui est faite de possibilités, de croissance, c'est une période qui est faite de développement, c'est la période où nous devenons marquer par l'acquisition de la connaissance, avec un grand C. Hein. Et nous sommes marqués par la quête de la vérité, c'est là où on cherche. Mais en fait, ce que mes parents m'ont toujours dit, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et on cherche, c'est nécessaire, il faut passer par là. Ce ne sont pas des années faciles, mais ce sont des années très importantes. Heureusement, ça ne dure pas toujours, mais enfin, c'est très important. Stéphane, il rigole, parce qu'il est encore dans l'adolescence. Moi aussi, d'ailleurs. Enfin, toujours est-il que, pour moi, à l'âge de 18 ans, ça y est, je me suis décidé à suivre Jésus-Christ, parce que j'avais ma quête, n'est-ce pas? Je cherchais la vérité, je cherchais dans toutes sortes de trucs, dans des bonnes choses, mais aussi dans des mauvaises. Et puis, finalement, j'ai rencontré Jésus grâce à Raphaël et Violette, qui sont venus prêcher l'évangile dans ma ville. Et à 19 ans, j'ai été rempli du Saint-Esprit. À 27 ans, mon ange s'est présenté à moi, mais sous la forme d'un être humain, très beau, il avait l'air d'un Eurasien, vous connaissez tous l'histoire, je vous l'ai déjà tous raconté, tout ça, ça se trouve dans le livre Oracle aussi. Puis au fil du temps, comme il a vu que j'avais écouté ce qu'il avait dit, j'ai cru ce qu'il avait dit, et ce qu'il avait dit s'était accompli, donc je me suis mis à l'écoute, c'est-à-dire que je n'ai pas dit, tiens, je vais me mettre comme ça, puis écouter. Non, ce n'est pas ça, c'est que mon cœur était disposé à croire dans l'existence de cet ange, vous comprenez? Donc, il a commencé à me parler, je ne le voyais pas. Et c'était avec la voix de ma femme, parce qu'il ne voulait pas me faire peur. Vous voyez, si j'entends une voix tout d'un coup qui me parle comme ça, moi je me dis, ça y est, c'est l'hôpital tout de suite, hein, ça ne va pas, il y a quelque chose, il y a un problème. Non, c'est tout à fait normal. Ce qui est anormal, c'est qu'on n'en entende pas, au contraire. Alors, c'était avec la voix de ma femme pour pas me faire peur, donc j'avais pas. Alors, des fois, c'était juste, il m'appelait. Michel, comme si, vous savez, ma femme quand elle m'appelle. Et puis voilà, puis je m'habituais à cette voix qui me parlait de temps en temps. Et petit à petit, eh bien, il s'est manifesté de plus en plus clairement et il a commencé à m'instruire. Vous voyez, ces choses devraient arriver à chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons au moins un ange avec nous pendant notre condition, dans notre vie, pendant cette condition de mortelle dans laquelle nous sommes. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 8, non, 18, 10. Alors, il est là, il peut vous parler, mais est-ce que vous êtes assez croyant pour l'entendre? Alors, Uriel, lui, il met en ordre les paroles de Dieu, les prophéties, afin de nous conduire dans le rétablissement de toutes choses, pour que nous soyons à notre place dans ce rétablissement, et nous incite à nous lever et à briller. Nous sommes appelés à nous lever et à briller, afin que notre lumière brille, soit une bannière pour les nations, selon ce que Jésus avait dit dans Matthieu 5, 16, que votre lumière brille devant les hommes. Nous devons briller. L'Église de Jésus-Christ, elle est l'arche d'aujourd'hui. Elle est l'arche d'aujourd'hui. Pas les églises que Jésus tolère, pas les églises que Jésus tolère en ce moment, mais non pas celle-là, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de l'Église telle que Jésus l'a voulu au commencement, elle telle qu'il la veut à la fin. Elle doit servir pour la défense, elle doit servir de refuge contre la tempête qui vient contre les nations. Et croyez-moi, c'est proche. Cette arche doit servir de refuge contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans aucun mélange sur toute la terre. Et cette colère, elle est là, tout près. Frères et sœurs, que l'enseignement de l'agneau soit une terre sainte, consacrée, parce que, frères et sœurs, le sol où vous êtes, c'est un sol qui est saint. Nous sommes invités à monter à la montagne de Dieu. Nous sommes invités à monter à la montagne de Dieu afin que le Seigneur nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers à lui. Parce que c'est de la dernière Jérusalem que sortira la parole de l'Éternel. La dernière parole de l'Éternel sortira de la dernière Jérusalem. Et puis après, il y aura une nouvelle Jérusalem. L'archange Uriel nous instruit dans le livre d'Enoch, et son message est très actuel, très actuel. Vous allez voir les commentaires que j'en fais là-dedans, dans ce livre. Et nous allons très bientôt retourner à notre condition mortelle. Ici, en tout cas, même si Jésus ne revient pas tout de suite, En tout cas, c'est sûr que nous, on va y aller. D'une manière ou d'une autre, on va y aller. On va retourner à notre condition mortelle. Ici, on a pris une densité. Et nous sommes limités. Mais, par l'éclairage de la parole de Dieu, nous retournons progressivement à notre illimitation. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais je le dis quand même, ça se comprend. Nous retournons à notre illimitation. C'est par l'éclairage de la parole de Dieu. Tout le monde a la parole de Dieu. Dans n'importe quelle librairie, il y en a partout. Il y a la parole de Dieu partout. Vous avez des gens, ils ont la parole de Dieu chez eux. Ils ne la lisent pas. Vous avez d'autres, ils la lisent, ils ne la comprennent pas. Je me rappelle d'un jeune frère qui était chez nous pendant un temps et je faisais un complexe parce que je le voyais tous les soirs en pyjama sur le bord de son lit. Et puis, il lisait la Bible. Puis moi, à l'époque, je n'étais pas un grand lecteur de la parole de Dieu. C'était au début de notre mariage. On priait même pas tellement ensemble. Ma mère disait, mais on ne prie jamais dans cette maison. J'étais comme ça. Puis je ne lisais pas. Et je faisais un complexe, j'étais un peu gêné. Alors je dis, mais c'est formidable, tu lis la parole de Dieu. Moi, je suis pas comme ça, j'arrive pas tous les jours. Et tout. Il me dit, ouais, je la lis, mais je comprends rien. Alors je dis, bon, d'accord. Bon, bah, alors, il perd son temps, quoi. Moi, j'aime autant regarder la télé. Si je comprends rien, ça ne sert à rien. J'étais chrétien et je prêchais l'évangile. Vous voyez, il a fallu que Dieu fasse tout un chemin dans mon cœur. Vous cassez pas trop la tête, mais sachez une chose, c'est que Dieu nous invite à monter sur la montagne de l'Éternel afin qu'on brille, afin qu'on reçoive les lumières pour pouvoir briller. Ça, c'est notre destinée. Alors, on a été enfermés dans des corps et... Déjà, on a des difficultés à avoir accès aux autres êtres humains. Je lisais, quelqu'un a écrit dernièrement, disant que c'est difficile d'avoir accès aux autres. Les autres ont difficilement accès à notre forme de pensée, ça crée des tas de problèmes, c'est vrai. Alors imaginez un petit peu à quel point nous sommes limités dans notre possibilité d'avoir accès aux anges. C'est une question d'esprit, et ça passe d'abord par la croyance. On est invité à apprendre à écouter le silencieux et à voir l'invisible. Mais oui, mes frères et sœurs, et c'est pas impossible, c'est juste une affaire de croyance. Si seulement tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. D'abord, croyez, est-ce que vous croyez que vous êtes un être spirituel? Vous devez croire que vous êtes d'abord un être spirituel. Avant tout, toujours je regardais un film, et c'était un jeune homme qui a dû prendre l'apparence d'une personne âgée, alors elle a pris une potion, et waf, tout d'un coup il est devenu un petit vieux, et alors il se retrouvait avec un autre vieux, puis il dit, aïe, ouh là là, aïe, 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 aïe. Et puis l'autre, le petit vieux lui dit, qu'est-ce que tu as? Alors celui qui avait été transformé dit, j'ai mal partout. Et l'autre petit vieux dit, ah, bienvenue au club, tu comprends ce que je suis en train de souffrir tous les jours. C'est vrai qu'on est dans un corps, on sent notre corps, des fois on oublie qu'on est des esprits, on habite ce truc-là, mais on est des esprits avant tout. Il faut que vous croyez ça, je suis avant tout un esprit, c'est spirituellement... Tout, on juge spirituellement, on doit vivre spirituellement. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit, pas avec des trucs du corps. Pour pouvoir atteindre le monde de l'esprit, on n'a pas besoin d'avoir des techniques corporelles, de se tenir dans la position du lotus ou de prendre substance, ça c'est des tromperies. En esprit, quand nous sommes conscients que nous sommes un esprit, alors en esprit nous rentrons en contact avec l'esprit, avec les choses de l'esprit. Et croyez-vous que vous êtes des êtres spirituels? Si oui, par votre foi, alors ayez accès à l'intelligence spirituelle. Par votre foi, c'est-à-dire c'est un pas, vous commencez à marcher sur l'eau, sur ce qui n'est pas solide. Sur là où vous n'avez pas l'habitude de marcher, mais vous devez y aller pour pouvoir comprendre ce qui arrive. Si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas briller. Vous ne pourrez pas éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, il vous revient, c'est un devoir, aujourd'hui on doit aller voter, il y a un autre devoir bien plus important, c'est celui d'être des lumières, Jésus le veut. Par contre, malheureusement, pour les autres, c'est difficile. Mais si nous sommes des lumières, eh bien, ceux qui nous verront, pour eux, nous serons des anges. Un petit peu comme Aaron était prophète à la place de Moïse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez Dieu, vous avez les archanges, vous avez les anges, il y a nous. Et puis tout en bas de l'échelle, il y a ceux qui sont vraiment dans les ténèbres. Nous, on a déjà de la peine à voir, à comprendre les choses célestes et spirituelles. Comment voulez-vous que les païens les comprennent? Si nous, déjà, nous pouvons comprendre un peu, avoir un peu de cette lumière, on peut se tourner vers eux et être cette lumière pour eux. Vous voyez le... Amen. Nous devons être, pour les gens de ce monde, nous devons être des envoyés de Dieu, des anges, des lumières, des messagers de Dieu. Et ça doit passer par vous. Notre frère Pierre Gilbert, qu'on a reçu, ça fait déjà 15 jours maintenant, ben, il est éclairé et il est clair avec une connaissance qui lui a été donnée par le pouvoir de l'observation. C'est un homme qui est intelligent et qui fouille et qui cherche, et c'est par l'observation des événements, des choses, des écritures qu'il trouve. C'est ce que Romains chapitre 1 verset 20 nous dit, que la gloire de Dieu, elle se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu, mais il faut encore faut-il observer. Alors lui, au moins, il observe, vous voyez, il observe ces choses, on peut dire scientifiquement. Et nous, c'est étrange de constater que nous avons reçu à peu près les mêmes éclaircissements. Mais Pierre Gilbert, c'est humainement, scientifiquement, nous l'avons reçu par des chuchotements de l'esprit, par les voix d'anges. Et puis Dieu a permis qu'on se rencontre, parce que les voix sont différentes, mais le but est le même. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est important. Le Seigneur nous a donné des clés, et nous devons nous en servir pour servir nos frères et sœurs. Les anges sont des esprits au service des autres. Eh bien, nous sommes au service. Quand on dit « les serviteurs de Dieu », ben, ça veut dire qu'on est au service des autres. L'autre jour, alors que nous étions à la conférence de Pierre Gilbert, il y a un serviteur de Dieu qui est venu vers ma femme et lui dit « Sœur, les toilettes sont vraiment très sales. » Alors ma femme a dit « Je vais aller les nettoyer tout de suite, mon frère. » Elle est allée, elle a pris le balai, il y avait une tache, un machin, pas grand-chose. Elle a pris le balai, elle l'a enlevé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu gêné quand même que ce soit ma femme qui est allée, la femme du serviteur, n'est-ce pas, qui est allée nettoyer le caca. Un serviteur de Dieu, c'est à lui de le faire. Il peut prendre le balai puis nettoyer aussi bien. Non, être serviteur de Dieu, c'est ça. Je prends des exemples un peu concrets. De toute façon, il n'écoutera pas cette prédication, donc il ne se reconnaîtra pas, donc il ne saura pas que j'en ai parlé. Puis je ne dis pas son nom, de toute façon. Mais vous voyez comme c'est bizarre. L'idée du serviteur de Dieu, c'est quelqu'un supérieur. Mais non, pas du tout. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu et serviteurs des autres. En fait, nous sommes les intermédiaires entre Dieu et les gens. C'est ça que je veux dire. On est à leur service. C'est nous les anges. Les anges qui ont une densité, c'est-à-dire qui ont un corps, qui sont, nous sommes sur la terre, mais nous sommes envoyés de Dieu dans ce but de les éclairer, de les aider, de les soutenir, de les bénir, de nettoyer le caca aussi. Non mais... Voyez-vous, le monde est bouleversé et il n'y a que la parole de Dieu qui soit stable. Mais encore faut-il avoir un regard spirituel pour en tirer une nourriture spirituelle qui est adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Les gens des églises ne sont pas dans l'arche, ils sont dans des bateaux à la dérive qui vont se fracasser sur des éperons rocheux, ça c'est inévitable, ça se voit gros comme une maison. Alors, ils vont vers l'erreur, avec tout son lot de possibilités manquées, de bénédictions perdues et de rêves brisés, ça c'est sûr. Y a-t-il un chemin ici-bas qui mène à la sécurité? Y a-t-il un moyen d'échapper à la destruction qui menace les nations? Oui, mes frères et sœurs. Eh bien, c'est vrai qu'il y a du brouillard, c'est vrai que c'est pas facile à voir, c'est vrai qu'il y a une nuit épaisse, c'est vrai. Mais la Bible nous dit que vers la fin, il y aura une lumière qui va poindre, une étoile qui va briller. Et il n'y a pas de marin si perdu que la lumière des étoiles ne puisse le secourir. J'ai lu cette belle phrase. Il n'y a pas de marin si perdu que la lumière des étoiles ne puisse le secourir. C'est les étoiles qui dirigent. Les anges, les envoyés de Dieu, nous appellent, venez, voilà le chemin qui conduit vers votre foyer éternel. Les anges, et nous sommes des anges. Pensez-vous que la terre en ce moment, elle tremble toute seule? Non, la Bible nous dit que c'est Dieu qui la secoue. Dieu est en train d'ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Mais même des chrétiens maintenant disent, oh bof, il y a toujours eu des tremblements de terre. Il y a toujours... Maintenant, on se lasse. J'ai même eu des réflexions de certains chrétiens, même fils de pasteurs, qui m'ont dit cette semaine, mais Israël, ce sont des extrémistes sanguinaires et tortionnaires et tout et tout. Quand on parle du peuple de Dieu qui se défend, ils ont pris l'habitude, ils parlent comme le monde, ils pensent comme le monde. Alors, moi, je vous remets un petit peu les pendules à l'heure, là, ce matin. C'est Dieu qui secoue la terre. En Israël, c'est Dieu qui agit. Le corps est encore mort, mais l'esprit va souffler, le corps va se lever, et là, ça va être formidable. Et ceux qui n'auront pas été du côté de ce corps, ils ont des problèmes. Ils auront essayé, et ils auront des problèmes. Pensez-y un petit peu. La terre est secouée. C'est Dieu qui secoue la terre en ce moment. Vous dites, oh, mais ça, c'est des croyances moyenâgeuses. Bon, d'accord. Écoutez ça, pensez-y. 780 000 morts dans les tremblements de terre depuis l'an 2000. 780 000 morts. On ne peut pas traiter ça comme un détail. La Bible nous parle des contractions de la terre qui ressemblent à celles d'une femme qui est sur le point d'accoucher, qui a des contractions de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. 780 000 morts depuis l'an 2000. Nous sommes en 2012. Les tremblements de terre de 2011, rien que ceux de l'année passée, ont coûté 226 milliards de dollars. Ce n'est pas un détail. Pensez-y. Ces 45 dernières années, le taux de suicide a augmenté sur Terre de 60%. Ce n'est pas moi qui invente ces chiffres, c'est les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui déclare que 1 million de personnes se suicident chaque année. 1 million de personnes chaque année, sans parler de ceux qui font une tentative de suicide, qui sont 20 fois plus nombreux. Pensez-y. Toutes les 40 secondes, quelqu'un se suicide sur cette terre. Regardez votre monde, ça passe vite, 40 secondes. Toutes les 40 secondes. Il y a 20 millions de tentatives de suicide chaque année. Luc 21-26 nous dit, « Ils rendront l'âme de terreur. » Ils n'en voudront plus, ils la rendront, j'en veux plus. Ils se rendent, ils se suicident. Apocalypse 6, 7, 8 nous dit, la mort et le séjour des morts sont sur la terre et ils ont le pouvoir de tuer un quart de la population. On y court. Ça, c'est les contractions de ces dernières années-là. 780 000 morts, 1 million de morts par suicide, sans parler de tous les accidents, de toutes les maladies, de toutes les guerres, de toutes ces horreurs et tout. Mais ça va aller, les contractions vont devenir plus fréquentes et plus fortes. Est-ce qu'on peut dire, oui, mais il y a toujours une... Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à être des signaux lumineux facilement détectables. Alain, tout à l'heure, remerciait Richie pour son blog et pour notre site Révélation Bible. Il y a aussi Dominique qui a un blog qui est visité aussi. Tous les moyens sont bons pour pouvoir briller. Il faut briller. Le peuple de Dieu doit croire. C'est devenu urgent. Il doit croire. Qu'est-ce qu'il doit croire? Ils doivent d'abord croire qu'ils sont fils et filles de Dieu, qui sont plus forts que cet esprit animal du diable, ce serpent, ce dragon. Mais ils ont de la peine à le croire. Ils doivent croire qu'ils sont aimés, qu'ils sont là pour un but glorieux, celui de pouvoir retourner enrichi dans la présence de Dieu. On est venu ici pour s'enrichir. Notre Dans notre passé éternel, nous avions atteint un niveau dans lequel nous nous trouvions, où nous étions en train de stagner. Il nous fallait cette expérience de la vie mortelle et c'est pourquoi nous sommes venus. Mais si nous ne passons pas le test, si nous ne marchons pas selon les ordres de Jésus, eh bien nous ne pourrons pas retourner. Ils doivent croire qu'il est de la plus haute importance de demeurer ferme, de demeurer fidèle aux vérités scripturaires. Ils doivent croire dans les paroles qu'ils disent eux-mêmes chaque jour, sinon ils n'auront aucun pouvoir contre les montagnes qui vont soudainement se dresser contre eux, parce que les montagnes vont se dresser contre les chrétiens de plus en plus. Avez-vous vu cette vidéo épouvantable? C'est pas un trucage, ça a passé sur les infos en Égypte, ça a été remis ensuite sur des blogs de ce jeune frère tunisien qui a été égorgé devant les caméras. Alors on voit ces fanatiques qui sont en train de réciter des prières, n'est-ce pas? Ce sont des musulmans fanatiques, je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça, mais des fanatiques, musulmans fanatiques qui sont en train de réciter des prières en ayant le couteau sous la gorge de cet homme. Et cet homme, on voit là les lèvres qui bougent un petit peu, mais très calme. Et j'ai un ami qui m'a dit qu'il sait lire sur les lèvres, qu'il est en train de réciter le Notre Père en latin. Et là, tout d'un coup, moi je dis, c'est pas possible, il ne va pas le faire. Et il plante le couteau et il l'égorge. J'ai plus le sang gicle de partout. Ça dure, moi je n'ai pas pu regarder jusqu'au bout, mais il paraît que ça dure 2 minutes jusqu'à ce qu'il lui décolle la tête du corps. Et il tient la tête comme ça à la fin. Voilà, mais c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Il y a un antichristianisme. Ces démons-là sont lâchés. Des montagnes vont se dresser véritablement contre les chrétiens de plus en plus. Ils doivent croire que rien ne vaut la peine de négliger la force de leur propre témoignage. Ensuite, ils doivent obéir. Les enfants à leurs parents, parce que si quand ils sont enfants, ils ne prennent pas l'habitude d'obéir à leurs parents, quand ils seront grands, ils n'auront pas pris ce pli et ils ne sauront pas obéir à Dieu. Dieu sera obligé de les briser pour qu'ils obéissent. Et les adultes doivent obéir au Seigneur, aux lois de Jésus, parce qu'il y a des lois de Jésus. On n'a qu'une vie ici-bas, il faut qu'on la protège, mes frères et sœurs. Protégez votre vie, protégez la vie de votre famille, protégez-la des ennuis qui vous empêchent de voir l'arche, qui vous empêchent de vous cacher dans l'arche. Ils doivent obéir sans s'occuper des autres. Les chrétiens doivent se rappeler qu'il y a un code, que votre code, mes frères et sœurs, que votre code de conduite ne s'occupe pas de ce que les autres mortels vont penser. Il ne faut pas s'en occuper. On avait vu un feuilleton encore à la télé dernièrement, il disait, mais je ne peux pas faire ça, ce n'est pas dans mon code. Il y avait un code de conduite. Vous devez avoir un code de conduite. Et dans ce code, vous ne devez pas vous occuper de ce que les autres vont penser quand vous allez obéir à Jésus. Mais vous devez vous occuper de ce que les anges pensent et de ce que Dieu pense. Vous devez croire et obéir à la prophétie d'Ésaïe 30, 19 à 21. On va la lire. Ésaïe 30, 19 à 21. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voilà le chemin, marchez-y. » Les anges sont discrets, ils vont se placer derrière toi pour parler, pour pas que tu aies peur. Et aujourd'hui, ils te disent « Voilà le chemin, marche. » Vous voyez, les anges ont ouvert notre connaissance, la lumière a brillé sur les pierres du songe de frère Jackson Jr. Et maintenant, c'est à nous de publier ces choses sacrées tant que nous pouvons, avec persévérance. J'aime bien le mot persévérance. Dans le mot persévérance, il y a l'idée de résister avec courage. Il faudra du courage pour croire, il faudra du courage pour obéir, et il faudra du courage pour avoir du courage. Il faudra du courage pour persévérer. du courage. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, soyez des hommes dans d'autres versions, soyez virils dans d'autres versions. Le mot viril, ça ne signifie pas être poilu, ça signifie être courageux. Donc même les sœurs, vous pouvez être viriles. Jusqu'au bout, jusqu'au jour où nous quitterons cette alliance, cette existence mortelle. Nous sommes appelés à persévérer jusqu'au bout. Je sais que nous vivons dans un temps où nous sommes submergés par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes de problèmes, des préoccupations diverses. Alors que dire ? Cherchez la direction divine un jour à la fois. Ne regardez pas ça comme quelque chose de... Non, non, c'est un pas à la fois, c'est un jour à la fois. Dieu est bon, miséricordieux. Ce qu'il veut, c'est vous voir, il veut vous voir vous mettre en route. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sur cette route, même s'il n'arrive pas jusqu'au bout de cette route, mais au moins qu'il aura fait un pas régulièrement après un autre pas, eh bien, il sera sauvé. C'est dans ce but que vous êtes venu sur cette terre dans la condition mortelle. Rien n'est plus important que l'objectif que vous cherchez à atteindre, celui de la vie éternelle dans le royaume du Père. Rien n'est plus important, rien. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, de notre Père céleste. Vous êtes venus sur cette terre à cette époque dans ce but, c'est d'atteindre le degré que vous devez atteindre pour pouvoir retourner à la maison. Des choses, le mot merveilleux et ridicule, glorieuses vous attendent. Glorieuses. Pour vous qui croyez, qui obéissez et qui persévérez. Et je prie, non pas que vous receviez, mais que vous preniez cette bénédiction. Amen. Merci Jésus. Aide-nous, chacun d'entre nous, à rendre sensibles nos cœurs pour pouvoir entendre, comprendre, croire et faire ta volonté et persévérer jusqu'au bout. Nous savons que les choses ne vont pas aller en se simplifiant, mais nous savons une chose, c'est que toi, tu développes pour nous une force extraordinaire pour nous soutenir, nous aider, nous bénir. Merci Jésus, parce que tu nous as donné un bouclier, le bouclier de notre salut, et nous voulons l'utiliser, nous voulons nous manifester dans cette vie, nous voulons le faire avec bravoure, avec courage. Et alors là, tu nous soutiendras dans ce combat et tu feras de nous des gens plus grands, plus glorieux. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Amen.